France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Aventure, définition du petit Robert. Nom féminin, ce qui arrive d'imprévu, de surprenant. Ensemble d'activités, d'expériences qui comportent du risque, de la nouveauté. Le récit que vous allez entendre s'intitule « L'aventure d'un voyageur ». On comprendra à l'écouter que le terme est ici teinté d'une pointe d'ironie. C'est l'histoire, banale, d'un homme qui fait un voyage de nuit en train pour rejoindre la femme qu'il aime. Et nous voilà plongés dans son flux de conscience, ses élans, ses inquiétudes, ses joies et les stratégies qu'il déploie pour les contenir ou les exalter. L'aventure tout intérieure, donc, d'un personnage dont on aurait presque envie de se moquer si l'on ne se reconnaissait pas si absolument en lui. Ce récit est extrait d'un recueil de nouvelles intitulé « Aventure » au pluriel, signé Italo Calvino et paru pour la première fois en Italie en 1958 sous le titre « Les amours difficiles ». François Chaumette avait choisi de le lire dans la traduction de Maurice Javion paru au Seuil pour l'émission « Bonne nouvelle, grand comédien » diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 août 1971.
J'ai choisi aujourd'hui une nouvelle d'Italo Calvino qui s'appelle « L'aventure d'un voyageur ». Cette nouvelle est tirée d'un recueil qui s'appelle « Aventure » et qui comprend, entre autres, 9 récits d'aventure, tous écrits entre 1949 et 1958, mais plus particulièrement entre 1953 et 1958. Ces nouvelles sont des nouvelles extrêmement réalistes et nous font entrer dans un univers poétique par les moyens les plus simples. Italo Calvino, l'aventure d'un voyageur. Frédéric V, qui demeurait dans une ville de l'Italie septentrionale, aimait Cynthia U, qui habitait à Rome. Frédéric, chaque fois que ses occupations le lui permettaient, prenait le train pour la capitale. Habitué à un emploi strict de son temps, dans le travail comme dans les plaisirs, il voyageait toujours de nuit. Dans le dernier train, il n'y avait pas foule, excepté au moment des fêtes. Frédéric pouvait s'allonger et dormir. Les journées qu'il passait dans le Nord se déroulaient nerveuses comme les heures d'un voyageur qui guette une correspondance et qui, en occupant son temps, garde toujours présent à la mémoire le tableau des horaires. Mais, venu enfin le soir du départ, quand Frédéric s'était acquitté de ses dernières tâches et se trouvait, son sac de voyage à la main, en route vers la gare, alors il commençait à sentir, malgré sa hâte et sa peur de rater le train, monter en lui la paix. C'était comme si l'animation qui régnait aux alentours de la gare, un ultime sursaut d'animation étant donné l'heure, s'insérait dans un mouvement naturel où Frédéric avait sa place. Toute chose semblait être là pour le seconder, pour rendre son pas plus agile. Le revêtement caoutchouté du hall, par exemple. Et même les obstacles. Les longues minutes d'attente devant le seul guichet ouvert, les difficultés pour changer une grosse coupure, le manque de petite monnaie au kiosque à journaux, les obstacles aussi, n'étaient là que pour lui procurer le plaisir de foncer et de les vaincre. D'une pareille disposition d'esprit, Frédéric ne laissait rien deviner. En homme réservé qu'il était, il se plaisait à passer inaperçu parmi tous ces voyageurs qui arrivaient, qui partaient, vêtus comme lui d'un pardessus et tenant une sacoche. Mais lui, il se sentait comme porté par une vague parce qu'il accourait vers Cynthia. Sa main, dans la poche du manteau, jouait avec un jeton de téléphone. Le lendemain matin, à peine débarqué à Rome Termini, il se précipiterait, ce jeton dans la main, vers la cabine la plus proche, il composerait le numéro, il dirait « Chérie, c'est moi, je viens d'arriver ». et il le serrait, ce jeton, comme un objet de valeur unique au monde, la seule preuve tangible de ce que la fin du voyage lui réservait. Le trajet coûtait cher et Frédéric n'était pas riche. Si dans un wagon de seconde à banquette de Moleskine des compartiments se trouvaient vides, il prenait un billet de seconde. Plus exactement, il prenait toujours un billet de seconde, se réservant la possibilité, en cas d'affluence, de passer en première et de régler la différence au contrôleur. Cette opération lui procurait d'abord le plaisir d'économiser. Le billet de première semblait moins lourd, ainsi payé en deux temps et comme par un cas de force majeure. Puis la satisfaction de mettre à profit l'expérience acquise. Enfin, un sentiment de liberté, d'aisance dans ses pensées et dans ses gestes. Comme beaucoup de personnes qui mènent une existence dépendant des autres, éparpillées, Frédéric s'attachait continuellement à préserver un certain état de concentration. À dire vrai, il suffisait d'un rien, d'une chambre d'hôtel, d'un compartiment de chemin de fer pour lui tout seul. Et aussitôt, l'univers se réordonnait à sa vie, paraissait créé à son intention. Les voies ferrées sillonnant la péninsule étaient construites à seule fin de le conduire triomphalement auprès de Cynthia. Ce soir, même les voitures de seconde étaient désertes, ou presque. La fortune lui souriait. Frédéric choisit un compartiment vide. Pas sur les roues, mais pas non plus trop à l'intérieur du wagon. Il n'ignorait pas que d'ordinaire, les personnes qui montent à la dernière minute négligent les premiers compartiments. La défense de l'espace indispensable à qui veut voyager couché implique un petit procédé psychologique. Frédéric les connaissait bien et n'en omettait pas un seul. C'est ainsi qu'il tira les rideaux de la porte, geste qui, à ce moment, pouvait sembler prématuré, mais qui visait précisément à un effet psychologique. Devant des rideaux fermés, le voyageur qui monte est pris d'un scrupule instinctif et préfère un compartiment resté ouvert, même s'il s'y trouve déjà deux ou trois personnes. Son sac, son pardessus, ses journaux, Frédéric les éparpilla sur les banquettes en face et à côté de lui. Encore un procédé sommaire, abusif et apparemment inefficace, mais qui a aussi son effet. Non que Frédéric prétendît faire croire que les places étaient occupées. Pareil subterfuge eût été contraire à son sens de la discipline et à sa franchise. Il ne s'agissait que de donner une impression d'encombrement peu accueillante. Rien qu'une impression passagère. Il s'affala sur la banquette et poussa un soupir de soulagement. Il savait d'expérience que le fait de se trouver en un lieu où la moindre chose est à l'endroit prévu, inchangé, anonyme, sans surprise, lui rendait le calme, la conscience de soi, la libre disposition de ses pensées. Sa vie était tout en désordre, jetée aux quatre vents. Or, voici que s'établissait un parfait équilibre entre son élan intime et les choses parvenues à une neutralité impassible. Cela ne durait guère. Quelques secondes s'il voyageait en deuxième classe, une minute s'il montait en première. Très vite, son cœur se serrait. L'impression de morne banalité du compartiment, le velours râpé ici ou là, les traces de poussière, la minceur élimée des rideaux provoquaient en lui un mouvement de mélancolie, de malaise, à l'idée de dormir tout habillé sur une couche de fortune, sans familiarité avec ce qu'il touchait. Et puis soudain, il se rappelait le motif de son voyage. Et il se sentait de nouveau gagné par le même rythme naturel comme celui de la mer ou du vent, une impulsion joyeuse et légère. Il suffisait de le chercher, ce rythme, au-dedans de soi-même, en fermant les yeux ou en serrant dans sa main le jeton de téléphone. L'impression de tristesse était bannie, il n'y avait plus que lui, Frédéric, seul face à l'aventure de son voyage. Quelque chose lui manquait encore. Qu'était-ce donc ? Ah ! Il entendait approcher sous la marquise certaines voix de basse chantante. « Oreiller pour la nuit !» Déjà, il était debout, abaissait la vitre, allongeait la main avec les deux pièces de 100 lire. « Par ici, hein ?» Et chaque fois, c'était le bonhomme aux oreillers qui donnait pour lui le signal du départ. Il passait sous les portières une minute avant que le train ne démarre, poussant son chariot avec tous ses coussins accrochés. Un vieillard de haute taille, maigre, avec des moustaches blanches, des mains puissantes, aux doigts longs et gros, des mains qui mettaient en confiance. Il était habillé de noir, de la tête aux pieds, casquette militaire, uniforme, pèlerine, écharpe enroulée autour du cou. un personnage du temps du roi Humbert, quelque chose comme un colonel retraité, ou plus modestement un brave maréchal des logis. Ou alors un facteur, un de ces vieux facteurs de campagne. Ses grosses mains, à l'instant de remettre à Frédéric le mince coussinet placé entre le bout des doigts, avaient l'air de tendre une lettre, de vouloir la glisser dans l'ouverture de la vitre. Maintenant, l'oreiller était entre les bras de Frédéric, carré, bien plat, on aurait dit une enveloppe, et de plus constellé de coups de tampon. La lettre quotidienne à Cynthia allait partir ce soir encore, mais au lieu d'une page d'écriture fiévreuse, c'était Frédéric en personne qui empruntait le trajet mystérieux d'un courrier de nuit au signal d'un vieux postier des jours d'hiver, ultime incarnation du Nord rationnel, discipliné, avant de s'aventurer dans l'incontrôlable tumulte des passions méridionales. En fin de compte, c'était aussi un oreiller, un objet moelleux, bien qu'aplati, un peu tassé, blanc, en dépit de tous ses cachets, juste sorti de l'autoclave. Il renfermait, tel un concept enclos dans un idéogramme, l'idée de lit, de paresse, d'intimité. Et Frédéric savourait d'avance l'oasis de fraîcheur que cet oreiller serait pour lui dans la nuit parmi ses velours inquiétants et rudes. Mieux encore, ce modeste carré de bien-être préfigurait d'autres bien-être, d'autres intimités, d'autres douceurs qu'il goûterait au terme du voyage. Déjà, le fait de se mettre en voyage, le simple geste de louer un oreiller, était des moyens de les goûter, d'entrer dans le domaine où régnait Cynthia, de s'enfermer dans le cercle chaleureux de ses bras. C'est dans un mouvement amoureux, cajoleur, que le convoi commençait à rouler entre les pilastres des marquises, se coulait parmi les clairières des aiguillages, fonçait dans l'obscurité et finissait par se confondre avec l'élan qui, jusqu'à présent, soulevait de l'intérieur Frédéric. Alors, comme si la marche du train le délivrant d'une sorte de crispation l'eût rendu plus léger, il se prit à accompagner cette marche en fredonnant une chanson dont la fuite du train, précisément, lui remettait l'air en mémoire. « J'ai deux amours, mon pays et Paris, Paris toujours. » Un monsieur entrait, Frédéric se tut. « C'est libre ?» Le monsieur prit place. Frédéric avait déjà mentalement fait un calcul. Si l'on veut voyager couché, mieux vaut être deux dans le compartiment. L'un s'allonge d'un côté, l'autre s'allonge en face, et personne n'ose plus vous déranger. Frédéric savait parfaitement que lorsqu'on monte dans un train où il n'y a pas foule, le plus sage serait de s'installer non dans un compartiment inoccupé, mais là où se trouve un voyageur. S'il n'en faisait rien, c'est qu'il préférait jouer la carte de la solitude complète. Quand, contre son gré, le hasard lui envoyait un compagnon, il lui restait la ressource de considérer les avantages de la situation nouvelle. C'est le parti qu'il prit ce soir encore. « Vous allez jusqu'à Rome ?» demanda-t-il au nouvel arrivant, afin de pouvoir ajouter « Bon, alors fermons les rideaux, éteignons la lumière et ne laissons plus entrer personne. » Mais l'autre répondit « Non, je descends à Gênes. » Il descendait à Gênes. Excellente chose. Frédéric resterait de nouveau seul, mais pour un trajet de 2 ou 3 heures, l'autre ne s'allongerait pas, il demeurerait sans doute éveillé, il voudrait de la lumière et d'autres voyageurs pourraient entrer aux arrêts intermédiaires. Frédéric avait tous les désagréments du voyage en compagnie, sans avoir aucun des avantages correspondants. Il ne voulut point s'attarder à ses supputations. Sa grande force était toujours d'écarter du champ de sa réflexion les aspects de la réalité qu'il jugeait embarrassants ou inutiles. Ce bonhomme, assis dans le coin opposé, il le gomma mentalement, n'en laissant subsister qu'une ombre, une tache grise. Le journal que chacun tenait ouvert devant soi facilitait cette impénétrabilité réciproque. Frédéric pouvait de nouveau se laisser emporter par son amoureuse envolée. « Paris toujours !» Nul ne pouvait imaginer que dans ce pauvre décor dressé pour des allées et venues dont le besoin ou la routine étaient les seuls motifs, lui, Frédéric, courait vers les bras d'une femme comme Cynthia. Afin de fortifier cette disposition orgueilleuse, il crut devoir examiner un peu son compagnon, sur lequel jusqu'à présent il n'avait pas même posé les yeux. Il voulait confronter avec une cruauté de nouveau riche sa propre condition d'homme comblé à la grisaille des existences étrangères. L'inconnu, toutefois, n'avait pas l'air trop pitoyable. C'était un homme encore jeune, robuste, bien nourri. Sa physionomie respirait la satisfaction, le dynamisme. Il avait posé à côté de lui une grosse sacoche et parcourait un journal sportif, l'allure, en somme, d'un représentant de commerce, d'un inspecteur en tournée. Un type qui voyage dans la quincaillerie ou les produits d'entretien, tandis que moi... Et l'envie de chanter lui revint dans un débordement d'euphorie et d'insouciance. « Je voyage en amour », modula-t-il dans son fort intérieur, sur le rythme de tout à l'heure qui lui paraissait en harmonie avec le bercement du train et auquel il adaptait des paroles inventées tout exprès pour faire enrager le représentant de commerce, si celui-ci avait pu les entendre. « Je voyage en volupté », il brodait. Il accentuait jusqu'à l'emphase les montées et les chutes de la chanson. « Je voyage toujours, hiver comme été. » Il s'emballait de plus en plus, « hiver comme été. » Au point que sur ses lèvres dut passer à un moment donné un sourire de béatitude. Il s'aperçut que le représentant l'observait. Il reprit sur le champ une mine sévère, s'absorba dans la lecture du journal, sans même vouloir s'avouer à lui-même qu'il s'était laissé aller, une seconde auparavant, à un mouvement aussi puéril. Mais pourquoi puéril? Il n'y avait là rien de puéril. Voyager le mettait dans une disposition agréable, une disposition d'homme mûr qui connaît le bon et le mauvais de l'existence et s'apprête à goûter de plein droit le bon. Rasséréné, la conscience en repos, Frédéric feuilletait les illustrés, images morcelées d'une vie trépidante, où il tâchait de retrouver un peu de ce mouvement qui l'emportait. Bien vite, il comprit que ces journaux n'avaient rien qui pût l'intéresser. Pure saisie de l'immédiat, reflet d'une vie toute superficielle. Sa songerie impatiente voguait bien plus haut que cela. Hiver comme été. Alors il était temps de dormir. Satisfaction inespérée, le représentant de commerce s'était assoupi, sans changer de position son journal sur ses genoux. Frédéric éprouvait à l'égard des gens capables de dormir assis un sentiment d'incompréhension radicale bien plus que de jalousie. Pour lui, dormir dans un train supposait toute une procédure délicate, un cérémonial minutieux. En cela consistait justement le plaisir laborieux de ses voyages. En premier lieu, il fallait, pour ne pas arriver chiffonné, troquer les beaux pantalons contre une paire usagée. L'opération nécessairement se déroulait dans les toilettes. Mais encore auparavant, afin d'avoir des mouvements bien dégagés, il convenait de remplacer les souliers par des pantoufles. Frédéric sortit de son sac les vieux pantalons, la pochette à pantoufles, ôta ses chaussures, mit ses pantoufles, dissimula ses chaussures sous la banquette, fila aux toilettes changer de pantalon. « Je voyage toujours !» Il revint, étendit ses pantalons dans le filet, en évitant les faux plis, tra-la-la-la-la-la. Il installa l'oreiller à l'extrémité de la banquette, côté couloir. Il serait moins fâcheux d'entendre la porte s'ouvrir brusquement au-dessus de sa tête que de recevoir à l'improviste la lumière dans les yeux. « Du voyage, je sais tout. » À l'autre extrémité de la banquette, il étala un journal. Il ne se couchait pas pieds nus, mais en pantoufles. À un crochet au-dessus de l'oreiller, il suspendit sa veste. Dans une des poches de la veste, il glissa son porte-monnaie et la liasse de billets de banque qui, laissée dans le pantalon, lui eussent meurtri la hanche. En revanche, il conserva sur lui son billet, dans une petite poche sous la ceinture. « Moi, je sais voyager !» Il remplaça son beau pullover par un vieux. Quant à la chemise, il n'en changerait que le lendemain. Le représentant qui s'était réveillé au retour de Frédéric observait toutes ces manœuvres en homme qui ne comprend pas bien à quoi il est en train d'assister. « Jusqu'à mon amour !» Il dénoua sa cravate, la suspendit, retira du col de sa chemise les baleines et les glissa dans une poche de sa veste avec les billets. « J'arrive avec le train !» Il ôta ses bretelles, car comme tous les hommes attachés à une élégance discrète, il en portait. ainsi que ses jarretières. Il défit le premier bouton de son pantalon pour ne pas avoir le ventre comprimé. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Par-dessus son pullover, il enfila non pas son veston, mais son manteau, après avoir retiré ses clés de ses poches. Mais le jeton de téléphone, il le garda précieusement, avec le fétichisme émouvant du bambin qui place sous son oreiller son jouet de prédilection. Il boutonna son manteau du haut en bas, en releva le col. Au prix d'un peu d'application, il était capable de dormir ainsi sans laisser le moindre pli. « Maintenant, voilà !» Dormir en train voulait dire s'éveiller tout à coup, peut-être en pleine gare, les cheveux ébouriffés, sans même avoir le temps de se donner un coup de peigne. Frédéric, en conséquence, enfonça sur sa tête un béret basque. « Alors, je suis prêt !» Il se dandina au milieu du compartiment. Le par-dessus enfilé ainsi, sans veste, flottait autour de son corps comme un ornement sacerdotal. Il tendit les rideaux sur la portière, tirant pour engager les boutons métalliques dans les œillets de cuir. Il fit un geste vague dans la direction de son compagnon, comme pour demander la permission d'éteindre. Le représentant s'était rendormi. Il éteignit. Dans la pénombre bleuâtre de la veilleuse, il se déplaça encore afin de fermer les rideaux de la fenêtre, mais pas entièrement, car de ce côté-ci, il ménageait toujours une ouverture. Il aimait le matin trouver un rayon de soleil dans sa chambre. Ultime opération, remonter sa montre. Voilà. Il pouvait se mettre au lit. D'un coup, il s'était allongé bien horizontalement sur la banquette, de côté, sans un pli à son manteau, les jambes repliées, les mains dans ses poches, le jeton dans une main, les pieds, enfin les pantoufles sur le journal, le nez dans l'oreiller, le béret sur les yeux. À présent, en une détente calculée après toute cette activité fébrile, sa pensée confusément tournée vers le lendemain, il allait s'endormir. Le train mâchonnait sa route invisible. Frédéric pouvait-il demander plus à la vie ? D'une pareille béatitude au sommeil, la distance est brève. S'endormir fut, pour Frédéric, comme plonger dans un puits de duvet. Pour 5 ou 6 minutes seulement, ensuite il se réveilla. Il avait chaud. Il était en sueur. On était en plein automne, les wagons étaient chauffés, mais lui, se rappelant le froid qu'il avait enduré lors de son premier voyage, avait tenu à se coucher dans son par-dessus. Il se leva, l'ôta, le jeta sur ses pieds comme une couverture, gardant les épaules et la poitrine découvertes, veillant toujours à le laisser tomber sans faire de plis. Il se coucha sur l'autre côté. La transpiration avait réveillé sur tout son corps un fouillis de démangeaisons. Il déboutonna sa chemise, se gratta la poitrine, se gratta une jambe. La gêne à laquelle il était en proie lui donnait des envies de liberté physique, de mer, de nudité, de nage, de course. Le tout culminant dans l'étreinte de Cynthia. En quoi se résumait le bonheur de l'existence? Dans son demi-sommeil, il finissait par ne plus distinguer entre le malaise présent et le bien-être escompté. Il éprouvait les deux ensemble, se prélassait dans un mal-être qui supposait et presque renfermait le plus grand bien-être possible. Il se rendormit. Les haut-parleurs des gares de temps à autre l'éveillaient. Mais ils ne sont pas aussi désagréables qu'on pense. S'éveiller et savoir par surprise où l'on se trouve procure deux sortes de satisfactions bien différentes. S'il s'agit d'une gare plus avancée qu'on imaginait, on se dit « ce que j'ai dormi, ce voyage, je le fais sans m'en apercevoir ». Et si c'est une gare qu'on croyait déjà passée, « bon, j'ai le temps, je peux me rendormir sans souci ». C'était cette fois-ci le second cas. Le représentant était toujours là, il dormait couché maintenant, avec un ronflement léger. Frédéric avait décidément trop chaud. Il se dressa, ensommeillé, tâtonna à la recherche du chauffage, le trouva sur la cloison d'en face, juste au-dessus de la tête de son compagnon, allongea les mains, se tint en équilibre sur un pied, il avait perdu une de ses pantoufles, fit tourner rageusement la poignée jusqu'à minimum. Le représentant dut ouvrir les yeux à cet instant précis et entrevoir au-dessus de lui cette main crochue. Il eut un hoquet, déglutit et sombra de nouveau dans l'invisible. Frédéric se jeta sur sa couchette. Le chauffage émit un vrombissement, alluma une ampoule rouge comme pour expliquer quelque chose, entamer un entretien. Frédéric attendit avec impatience que la chaleur se dissipe, se releva pour baisser la vitre de quelques millimètres, et puis, comme le train filait à toute vitesse, il eut froid. Il plaça la poignée sur maximum, puis passa la main sous la banquette pour sentir la montée de la chaleur. On ne sentait rien. Il tâtonna alentour. Tout semblait éteint. Il remit son manteau, puis l'ôta, chercha le pullover neuf, quitta le vieux, enfila le neuf, enfila par-dessus le vieux, remit son manteau, se pelotonna sur le siège et s'efforça de retrouver cette sensation de plénitude qui tout à l'heure l'avait mené au sommeil. Mais il ne se rappelait rien. Quand la chanson lui revint en mémoire, il s'était déjà rendormi et c'est dans son sommeil que ce rythme continua à le bercer triomphalement. La première lueur du matin filtra par les interstices avec les appels « café chaud »,« journaux » d'une gare située aux confins de la Toscane ou bien déjà à l'entrée du Latium. Il ne pleuvait pas. Derrière les vitres humides, le ciel montrait une indifférence à l'automne déjà toute méridionale. Le désir de boire quelque chose de chaud, et puis aussi certains automatismes de citadins pour qui chaque journée débute par un coup d'œil au journal, mirent en branle les réflexes de Frédéric. Il sentit qu'il devrait se précipiter à la fenêtre, acheter du café ou le journal, ou l'un et l'autre. Mais il réussit à se persuader qu'il était encore endormi, qu'il n'avait rien entendu, à tel point que cette conviction garda toute sa puissance quand le compartiment fut envahi par la foule qui prend à Civitavecchia le train du matin pour Rome. Et son meilleur moment de sommeil, les premières heures du jour, il en jouit presque sans interruption. Quand il s'éveilla pour de bon, il fut aveuglé par la lumière qui entrait par les fenêtres débarrassées de leurs rideaux. Sur la banquette en face, des voyageurs étaient serrés les uns contre les autres, bien plus nombreux, lui sembla-t-il, qu'il n'en aurait dû pouvoir tenir. En fait, une grosse femme avait pris un enfant sur ses genoux, et un homme était installé sur sa banquette à lui, Frédéric, à la place laissée libre par ses jambes repliées. Les hommes, pour différents que fussent leurs visages, avaient tous des airs vaguement ministériels, avec, comme unique variante, un officier de l'armée de l'air à l'uniforme barré de décoration. Les femmes aussi, on voyait qu'elles allaient retrouver des parents employés dans un ministère. D'une manière ou de l'autre, tous ces gens se rendaient à Rome pour questions administratives, les concernant eux-mêmes ou bien quelqu'un des leurs. Et tous, certains en levant les yeux par-dessus le tempo, observait Frédéric allongé là, à la hauteur de leurs genoux, masse informe repliée dans son manteau, sans plus de pied qu'un phoque, qui lentement se détachait de l'oreiller humide de salive, et le cheveu hérissé, le béret en équilibre au sommet du crâne, une joue marquée par les plis de la doublure, se soulevait, s'étirait avec des mouvements difformes, des mouvements de phoque, retrouvait petit à petit l'usage de ses jambes, enfilait ses pantoufles en se trompant de pied, défaisait un bouton pour se gratter sous la double épaisseur des pullovers et de la chemise chiffonnée, promenait sur eux des yeux encore bouffis de sommeil et souriait. Par-delà la vitre s'étendait au loin la campagne romaine. Frédéric resta un peu de temps assis, les mains sur les genoux, toujours souriant. Puis du geste, il demanda l'autorisation d'emprunter le journal sur les genoux de son vis-à-vis. Il parcourut les titres, éprouva comme chaque fois le sentiment de se trouver dans un pays lointain, posa un regard olympien sur les arches des aqueducs qui défilaient de l'autre côté de la fenêtre, rendit le journal et se leva pour chercher dans son sac son nécessaire de toilette. À la gare Termini, le premier à bondir hors du wagon, frais comme une rose, ce fut lui. Dans sa main, il tenait serré le jeton. Au fond de niche, entre les pilastres et les stands, les téléphones gris n'attendaient que lui. Il introduisit le jeton, forma le numéro, écouta le cœur battant, la sonnerie lointaine, entendit l'allô de Cynthia monter, encore tout parfumé de sommeil et de tiédeur douce. Lui, étaient déjà en proie à la tension de leur journée commune, jetés dans l'angoissant combat des heures. Ils comprenaient qu'ils ne sauraient rien dire à Cynthia de ce qu'avait été pour lui cette nuit. Cette nuit qu'il sentait déjà disparaître, comme chaque parfaite nuit d'amour, sous l'assaut féroce d'un jour.
C'était Bonne Nouvelle, Grand Comédien. François Chaumette lisait L'aventure d'un voyageur d'Italo Calvino dans la traduction de Maurice Javion parue au Seuil, une émission proposée par Patrice Galbeau et diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 août 1971.